Nous voulons encore prier. Ô Seigneur notre Dieu, notre souverain Maître, Seigneur du ciel et de la terre, Père, Fils et Saint-Esprit, nous nous inclinons devant toi dans une confusion par rapport à nous-mêmes, à cause de notre péché et de nos manquements, de notre insuffisance. Mais Seigneur, dans une confiance grande en toi à cause de Jésus-Christ et de son œuvre, à cause du Saint-Esprit qui nous la communique. Et nous voulons nous incliner devant toi pour te supplier de nous aider pendant cette heure. Ô Seigneur, toi qui es le Seigneur du ciel et de la terre, tu as appelé par leur nom une nuée innombrable de témoins. Et Seigneur, nous sommes en communion avec ces témoins dans le monde invisible et visible par ton esprit. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces témoins qui nous ont précédés, et sans le témoignage desquels nous ne serions pas ici. Et nous voulons te remercier en particulier pour ton serviteur, injustement oublié aujourd'hui, Théodore de Bèze. Et nous te demandons de nous aider les uns et les autres pendant cette heure à mieux comprendre qui il était et surtout à mieux comprendre quel grand Dieu il avait, qui est notre Dieu aussi. Au nom de Jésus-Christ, amen. Le titre de cette conférence, Théodore de Bèze, pasteur et défenseur de la foi, 1519-1605. Vous remarquerez que l'année passée était le 400e anniversaire de sa mort. Théodore de Bèze, qui succéda à Jean Calvin en 1564 comme modérateur de la Compagnie des Pasteurs, de la Ville et de la République de Genève, naquit le 24 juin 1519, comme nous l'avons entendu, dans la petite ville bourguignonne de Vézelay, ancien haut lieu religieux de la chrétienté médiévale. Il mourut, paisiblement, le 13 octobre 1605 à l'âge de 86 ans. Pendant près de 50 ans, de 1558 à 1605, Bèze fut au service de l'Église de Genève. Après la mort de l'antistesse de l'Église de Zurich, Heinrich Bullinger, en septembre 1575, Théodore de Bèze fut le chef incontesté de la cause réformée dans toute l'Europe. Son œuvre est immense et, comme nous le verrons, extrêmement variée. Une correspondance prodigieuse dont la publication a aujourd'hui atteint avec son 26e volume l'année 1585. Quelques 90 ouvrages, la plupart en latin et dont un certain nombre connurent des traductions en diverses langues. 5 éditions du Nouveau Testament, 4 en texte du texte grec, avec traduction latine et notes textuelles et exégétiques allant de 1556 à 1598. La traduction avec Clément Marot du psautier en vers français, de la poésie latine et française, du théâtre, des recueils de sermons, des ouvrages de piété, et même au soir de sa vie, il avait alors 76 ans. Il mit la main à la composition des mélodies qui accompagnaient sa traduction versifiée d'un certain nombre de cantiques. Il fut ainsi, tour à tour, lui qui était un helléniste et latiniste hors pair, poète, dramaturge, satiriste, pamphlétaire, critique textuelle, exégète, philosophe, juriste, théologien, prédicateur, mais avant tout, pasteur, homme d'église, un homme de Dieu à la piété profonde et rayonnante. Comme en témoigne si largement sa correspondance, il fut aussi homme d'État, diplomate et l'ordonnateur sur la scène de toute l'Europe de la cause réformée. Cette grande figure chrétienne, bien oubliée aujourd'hui, a trop souvent été perçue par les rares spécialistes qui s'en occupaient à travers les lunettes déformantes d'une modernité résolument hostile à la vision chrétienne que manifestent tous les aspects de son œuvre immense. Selon ses interprètes, Bèze aurait été une figure rebutante par son austérité moralisatrice, un théologien essentiellement abstrait, coupé des réalités pastorales et sociales de ses contemporains, un poète au style dépourvu de charme, rude et médiocre, un critique textuel rendu incapable par ses préventions théologiques d'utiliser la richesse des manuscrits à sa disposition, un polémiste intraitable et sans pitié, le défenseur d'une théologie toute centrée sur la seule prédestination. En bref, le pire des théologiens scolastiques, aristotélicien rétrograde, ennemi de toute pensée moderne, traître à l'héritage biblique si lumineusement humaniste de son mentor Jean Calvin. Face à une œuvre d'une telle richesse, d'une telle variété, d'une telle ampleur, confronté à une vie si longue et si remplie à la fois de toute l'histoire de son siècle et constamment conduite par la recherche de la gloire de Dieu et du bien de son Église, j'ai bien souvent ressenti, d'une part, mon incapacité à cerner l'essentiel d'une telle vocation et de l'autre, mon indignité à aborder une manifestation si éclatante de l'action divine dans l'histoire humaine. Mais ce qui m'a souvent réconforté dans ces recherches fut de constater que Théodore de Bèze fut lui-même animé de sentiments semblables. C'est par un extrait de son testament, rédigé en 1595, 10 ans avant sa mort, que je voudrais ouvrir notre regard sur la vie et l'œuvre prodigieuse de ce grand pasteur et défenseur de la foi, Théodore de Bèze. « Il me serait impossible, dit-il, de réciter les grandes assistances que j'ai senties du Seigneur en toutes sortes de charges, non seulement par trop pesantes, mais aussi par trop périlleuses. Il s'agit de ses nombreux voyages en France. Jusqu'à ce que, étant de retour en ce lieu, c'est-à-dire Genève, il m'a fait cette grâce jusqu'à présent de n'avoir été sans édification tant de bouche que par écrit, selon qu'il a plu à Dieu de m'y conduire. Mais hélas, faisant comparaison de son devoir avec ce peu d'effet, je baisse la tête devant Dieu, lui demandant grâce et miséricorde. » Nous allons parcourir un peu la vie de Théodore de Bèze, d'abord son enfance et sa jeunesse. Bèze était issu d'une famille de la petite noblesse. Son père, Pierre de Bèze, juriste et héritier d'une fortune liée au travail industriel des forges et à de nombreux bénéfices ecclésiastiques, était bailli royal de sa ville natale. Théodore, le cadet de 7 enfants, était d'une santé fragile, bien que par la suite il ait joui d'une robustesse à toute épreuve. Son oncle Nicolas, un ecclésiastique, se prit d'une telle affection pour le petit garçon qu'il obtint de ses parents de l'emmener à Paris pour y faire son éducation. C'est ainsi qu'à 3 ans et demi, le petit Théodore quitta le foyer paternel pour toujours. L'oncle Nicolas, cherchant à donner à son neveu, qui manifestait déjà des dons précoces remarquables, la meilleure éducation possible, le plaça en 1528, à l'âge de 9 ans, à Orléans, dans la famille du célèbre helléniste allemand Melchior Vollmar, qui avait déjà été le maître de Calvin à Paris. Théodore y resta jusqu'au départ de Vollmar de la France en 1535, à la suite de l'affaire des placards. Non seulement Bèze acquit auprès de l'humaniste une connaissance extraordinaire des lettres grecques et latines, mais plus important encore, il y rencontra l'Évangile. Car Vollmar était entièrement acquis aux doctrines luthériennes si répandues en France à cette époque. L'on comprend bien que Bèze voit toute sa vie une profonde reconnaissance envers cet homme qui fut pour lui l'instrument de Dieu pour, je cite Bèze, faire jaillir la parole de Dieu comme de la vraie source pour en abreuver la connaissance de la religion véritable. En 1535, Bèze, il avait 16 ans, suivit les ordres de son père qui souhaitait en faire un juriste et débuta des études de droit à Orléans. C'est de cette époque que date un événement spirituel capital pour le jeune homme, la lecture d'un traité de Bullinger, de l'origine des erreurs dans la célébration du culte divin. Dans une lettre adressée à Bullinger en 1550, Bèze lui écrivait « Vous m'avez fait connaître la vraie piété, tirée de la parole de Dieu, sa source la plus pure. Mais ce qui est semé ne lève pas toujours rapidement, car le temps de la maturation spirituelle est souvent plus long que ce qu'on nous laisse entendre. Les années 1535 à 1548 marquèrent pour Bèze une période d'éloignement de cette foi évangélique qu'il avait fait sienne. Selon le désir de son père, Bèze se rendit à Orléans et entreprit des études de droit. Mais ce qui l'intéressait alors était la littérature, surtout la composition de poèmes latins dans l'imitation des anciens. En 1539, licence de droit en poche, Bèze monte à Paris à 20 ans, où il doit lutter entre la volonté de son père, qui souhaite pour lui une carrière de juriste, et son goût pour une poésie esthétisante. Les bénéfices ecclésiastiques dont il jouit largement le mettent à l'abri du souci de se trouver une carrière. Il entre dans des cercles de littérateurs qui gravitent autour de ce que l'on connaîtra plus tard sous le nom de la Pléiade. Mais sa vocation chrétienne n'est étouffée que pour un temps et n'attendra qu'une crise violente pour éclore de manière durable. En 1548, au moment même où il connaît un commencement de gloire littéraire, l'appel de Dieu, longtemps étouffé, fait irruption violente dans sa vie confortable. Voici comment Bèze décrivit plus tard sa situation aux abords de la trentaine. « Alors que je ne figurais pas comme le dernier parmi les hommes pieux de Paris, ni parmi les moins habiles dans les lettres, je fus tenté par les triples raies de Satan, les attraits de la volupté, ceux de la gloire littéraire et l'espoir enfin d'une belle carrière à laquelle m'invitaient des amis de la cour et à quoi mon père et mon oncle ne cessaient de m'exhorter. C'est Dieu même qui m'a fait échapper à ces dangers. » Parlons maintenant de sa conversion. C'est en 1546 que Théodore de Bèze épouse en secret une roturière. Il est lui, rappelons-le, noble, Catherine de Noce. En secret, car un mariage ouvert lui aurait fait perdre ses bénéfices ecclésiastiques et déchoir de son rang. C'est une intervention de Dieu lui-même qui rompt avec violence la trame de cette double vie. Dans une lettre du 12 mars 1560 adressée à Melchior vers Volmar, Bèze explique ce qui s'est alors passé. Pour des raisons que comportaient les circonstances, j'avais promis le mariage à une femme environ 4 ans avant mon émigration volontaire, ce que j'ai dit ailleurs ouvertement. Elle était de condition inférieure, mais douée de tant de vertus que je n'ai jamais eu à me repentir de ce lien. Mais pendant que je restais comme embourbé, les miens me poussaient à choisir un état et mon oncle m'offrant le sien, de telle sorte que j'étais poussé d'un côté par ma conscience, et ma promesse est retenue de l'autre par Satan, et mes revenus encore grossis par la mort de mon frère. Alors Dieu vint me chercher par le moyen d'une grave maladie qui me saisit au point que je ne pensais pas me remettre. Qu'arriva-t-il ? Après d'interminables souffrances du corps et de l'âme, Dieu eut pitié de son serviteur fugitif et me consola de telle sorte que je ne doutais plus de son pardon. Au milieu de 1000 alarmes, je me détestais moi-même, j'implorais son secours, je renouvelais le vœu de le servir ouvertement dans sa vraie église. Bref, je me donnais totalement à lui. Il advint ainsi que l'image de la mort, gravement présentée devant mon âme assoupie et comme ensevelie, éveilla l'aspiration à une vraie vie et que cette maladie fut le début de ma guérison. Dès que je pus quitter le lit, je rompis tous les liens qui jusqu'alors m'avaient enchaîné, réunis tous mes biens et quittai patrie, parents, amis, pour suivre Christ et me retirai volontairement à Genève avec ma femme. Les fugitifs arrivèrent à Genève le 24 octobre 1548. La fuite d'un personnage public d'une pareille importance ne pouvait être sans conséquence. Le 3 avril 1549, un acte du Parlement de Paris, signé par son président Pierre Lizet, décréta la saisie de Bèze et la confiscation de tous ses biens. Il fut condamné à mort. Il ne pouvait revenir en France qu'au risque de sa vie. Son séjour à Lausanne et sa formation. Le 11 novembre 1548, soit 3 semaines après leur arrivée, Jean Calvin en personne bénissait publiquement le mariage secret de Théodore de Bèze et de Catherine de Noce. Mais il restait à trouver un emploi, à subvenir aux besoins du nouveau foyer. À Genève, Calvin n'avait rien à lui offrir. Rappelons que l'unique académie réformée de langue française se trouvait alors à Lausanne. C'est en 1549 que Pierre Viret, qui avait reconnu les talents éminents et si variés de Bèze, chercha à le retenir comme professeur de grec dans son académie. C'est ainsi, après quelques doutes, que Bèze, ayant surmonté ses scrupules et sa modestie native, fut nommé le 6 novembre 1549 professeur de grec à l'académie de Lausanne. C'est sous la tutelle de Pierre Viret et dans l'amitié croissante de Calvin que Théodore de Bèze connut de 1549 à 1558 10 années de formation théologique, académique et ecclésiastique. La suite de sa carrière sera fortement marquée par ces années lausannoises. Quels furent donc les travaux auxquels il s'attacha et qui exercèrent sur lui une influence si formatrice? D'abord, le poète. En premier lieu, ses dons de poète furent mis au service des églises. On raconte qu'un jour, déjà en 1549, Calvin, passant voir Bèze, le trouva absent, mais découvrit par contre sur sa table de travail l'ébauche d'une traduction en vers d'un psaume. Dieu mettait au service de son Église les dons de versificateur que Bèze avait si fortement développés dans sa jeunesse, mais dans une perspective profane de gloire personnelle. Clément Marot avait entre 1540 et sa mort 1544 bien traduit 49 psaumes, mais il en restait une centaine à mettre en vers français pour que les églises de la Réforme puissent enfin disposer d'un recueil de cantiques appropriés à la vision calviniste du public. Dès le tout début de son séjour à Genève, Bèze avait très vivement ressenti la puissance bienfaisante du chant des psaumes. Dans le commentaire qu'il écrivit pour l'édition de 1579 du Psautier, nous lisons ces paroles. « Lorsque j'entrai pour la première fois dans une assemblée chrétienne, on chantait le psaume 91. Je me sentis à tel point fortifié par ce chant que dès lors il est resté gravé dans mon cœur comme si j'entendais Dieu lui-même s'adressant directement à moi. Et je puis attester devant Dieu que j'en ai reçu un admirable soulagement dans la maladie et la souffrance, non seulement lorsque je fus atteint de la peste 3 ans plus tard, ou lorsque ce mal s'attaqua à ma famille, ce qui arriva à 4 reprises. Mais encore dans d'autres graves épreuves. » Bèze s'attela immédiatement à cette grande tâche, mais harcelé comme il le fut par d'innombrables autres travaux, ce ne fut qu'en 1562 que le recueil complet, le Psautier huguenot, vit le jour. Réédité d'innombrables fois, tiré à plus de 100 000 exemplaires, ce fut sans conteste le plus grand succès de librairie du siècle. Il suscita des traductions en quelque 22 langues et fut pour 2 siècles le livre de chants des églises réformées. Bèze le poète, maintenant Bèze le satiriste. Mais les années éducatives de Bèze à Lausanne ne se limitaient aucunement à cette redécouverte en la langue française du XVIe siècle des principes d'une poétique à la fois réaliste et surnaturelle. Car tenant compte à la fois des dimensions concrètes du monde sensible et des dimensions réelles du monde invisible, divin, providentiel, angélique et démoniaque. Ce sont ces aspects de la réalité qui furent progressivement évacués par l'esprit réducteur purement immanent de la Renaissance et sont ceci avant-coureurs de cette modernité qui, pour sa perte, a fait l'économie de toute réalité non mesurable. Nous avons évoqué les affinités de cette poétique biblique avec la poésie médiévale. Mais Baize ne s'est aucunement contenté de pratiquer une poésie spirituelle et morale d'inspiration directement biblique. Il a dit, et cela est peu connu, renouer avec la poésie fantastique, grotesque, satirique et mordant des jongleurs du Moyen-Âge, du roman de Renard, de François Villon, des rhétoriqueurs et des Rabelais lui-même. Comme Viré avant lui, et sans doute avec la collaboration joyeuse et espiègle de son collègue et maître Vaudois, Baize avait compris que la réfutation des erreurs de tout genre par le rire pouvait avoir des effets plus efficaces, plus puissants que l'argumentation théologique la plus rigoureuse, la plus exacte, la plus sérieuse. Mais ses travaux à Lausanne ne se limitèrent pas, peu s'en faut, au domaine de la reconstruction de la poésie, selon des principes chrétiens. Ses dons exceptionnels de linguiste, surtout sa grande connaissance du grec, furent à la base de son enseignement à l'Académie de Lausanne. À deux reprises, il assuma la tâche de recteur. Très tôt, il mit au service de l'édification de l'Église de Dieu ses connaissances par des travaux d'édition, d'annotation, d'interprétation et de traduction du Nouveau Testament. C'est ainsi qu'en octobre 1552, à la demande de l'imprimeur Robert Étienne, Baize entreprit d'éditer le Nouveau Testament, de l'annoter et de traduire le texte grec-latin. Ce volume parut en 1556, mais ce n'était que le début de ses labeurs sur le texte du Nouveau Testament. En 1565, Henri Étienne, le fils de Robert, publia l'édition critique établie par Baize du texte grec du Nouveau Testament, accompagné de sa traduction latine, de la Vulgate et de ses annotations textuelles, exégétiques et doctrinales. Cette édition connut trois nouvelles éditions, 1582, 1589 et en 1598. Baize y travailla en fait toute sa vie, améliorant le texte par la comparaison détaillée de tous les manuscrits à sa disposition, peaufinant constamment sa traduction et ses annotations latines. Mais voici les principes qui dirigeaient la critique textuelle de Baize. Premièrement, le texte du Nouveau Testament, comme celui de l'Ancien, est foncièrement différent de tous les autres écrits humains. Il est inspiré par le Saint-Esprit et, deuxièmement, préservé dans sa transmission par l'Esprit de Dieu lui-même. Deuxièmement, les variantes ne sont pas égales, car la transmission du texte, comme la continuité de l'Église elle-même, témoigne du combat entre Dieu et Satan pour le maintien de copies fidèles à l'original inspiré. Donc il existe une tradition textuelle fidèle. La tradition transmise par l'Église grecque est redécouverte en Occident lors de la Réforme, et une tradition textuelle infidèle, la Vulgate latine, et divers textes très anciens, aberrants, qui témoignent de la rage des hérétiques, surtout des Ariens, à falsifier le texte de l'Écriture. Finalement, ce n'est aucunement le critique textuel ou le comité de critique qui, par son travail critique, établit le texte du Nouveau Testament. Le travail du critique fidèle à la Bible doit se borner à reconnaître et manifester de plus en plus clairement la tradition textuelle, d'ailleurs quasiment unanime, qui témoigne de l'œuvre de préservation textuelle effectuée au cours des âges par le Saint-Esprit. Ainsi, les lectures vraiment aberrantes par rapport à cette tradition textuelle fidèle doivent être résolument écartées. On peut ainsi constater un lien organique chez Baize et chez ses collègues de l'époque de la Réformation entre théologie orthodoxe et les méthodes d'une critique textuelle fidèle. Il est intéressant de faire remarquer que ce travail textuel et exégétique de Baize fut reconnu d'une telle valeur qu'en dépit des divergences avec sa doctrine ecclésiastique presbytérienne, les épiscopaliens britanniques, chargés de l'établissement de la fameuse traduction de la Bible anglaise de 1611, la King James, y ont largement introduit les lectures et les notes exégétiques contenues dans ces éditions successives du Nouveau Testament. Telle fut l'immense autorité textuelle et exégétique du réformateur genevois. Maintenant, nous venons à sa formation dogmatique. Venons-en maintenant aux ouvrages dogmatiques écrits par Baize dans cette période formatrice de Lausanne. Son premier texte, au caractère, à proprement parler, théologique, fut sa fameuse table de la prédestination de 1555, réponse à une attaque de Jérôme Bolzec, qui avait traité Calvin de manichéen et prétendu que par sa doctrine de la prédestination, il aurait fait de Dieu l'auteur du mal. Des érudits modernes, je ne citerai pas leur nom, suivant ici les enseignements de Moïse Amiro, leur précurseur au XVIIe siècle, se basant sur l'étude superficielle de ce document, ont prétendu à des degrés divers déceler dans l'enseignement du successeur de Calvin une opposition fondamentale entre Baize et son maître. Mais cette vision de la théologie, en réalité éminemment pastorale de Baize, est rigoureusement erronée. Il s'agit d'une déformation caricaturale de sa véritable pensée. Il ne nous est évidemment pas possible de démontrer dans ce contexte, de manière détaillée, le bien fondé d'une pareille affirmation. Mais il faut signaler ici le remarquable article de Richard Müller, grand spécialiste de l'histoire théologique de cette période, qui a démontré d'une manière irréfutable dans un article que cette position des critiques modernes ne correspond pas du tout au fait. Par ailleurs, deux études récentes, l'une de Jeffrey Mallinson, « La foi, la raison et la révélation chez Théodore de Baize », publiée en 2003, et l'autre du baptiste Sean Wright, « Notre refuge souverain, la théologie pastorale de Théodore de Baize », publiée elle en 2004, démontrent de manière convaincante la réelle continuité, malgré quelques nuances, à la fois théologiques, surtout Mallinson, et pastorales, surtout Wright, de la pensée chrétienne de Baize avec celle de son maître Jean Calvin. C'est d'ailleurs un point sur lequel insiste Alain Dufour, le meilleur connaisseur francophone de Baize à l'heure actuelle et qui aujourd'hui met la dernière main à une biographie nouvelle de notre réformateur. Cet aspect pastoral de la théologie éminemment biblique de Baize devient tout à fait évident à la lecture de son premier chef-d'œuvre doctrinal qui est « La confession de foi du chrétien ». De 1556, Baize l'écrivit explicitement pour son père à la fin de 1556, dans le but de tenter de l'amener à la foi réformée. Il fut publié pour la première fois en 1558. Théodore de Baize à Genève, 1558-1605. Nous parvenons à la fin de cette période lausannoise, période de préparation très variée de Théodore de Baize, aux grandes responsabilités qui allaient bientôt être les siennes. En août 1558, en plein conflit entre les pasteurs et les professeurs de la classe de Lausanne, avec les autorités ecclésiastiques et politiques de Berne, sur la question litigieuse de la discipline ecclésiastique, conscient que plus rien de bon ne pouvait venir d'un prolongement du conflit, Baize donna sa démission comme professeur à l'Académie de Lausanne et rejoignit Calvin à Genève. L'an 1559 vit la fondation de l'Académie de Genève, pépinière d'innombrables pasteurs qui ont apporté à travers toute l'Europe les enseignements de la doctrine réformée et la pratique de la discipline ecclésiastique de l'Église de Genève. Baize en fut le premier recteur. 1560 voit Baize à Nérac, dans le royaume de Navarre, où il prêche la parole de Dieu et commence à organiser la résistance ecclésiale et politique des Huguenots à la persécution. Souvenons-nous qu'il est condamné à mort. En 1561, il préside, tout proscrit et condamné à mort qu'il est, la délégation réformée au colloque de Poissy, où il prêche librement devant la cour. 1562 le voit conseiller spirituel et politique du prince de Condé au début de la première guerre civile. Le 7 mars 1563, Baize était de nouveau de retour à Genève, après une vingtaine de mois passés en France. 1564 voit la mort de Calvin et Baize lui succède à la tête de l'église de Genève. Les années qui suivent sont remplies d'innombrables activités. Enseignements réguliers à l'académie, prédications fréquentes, équilibre constant à assurer entre les conseils de la ville de Genève et la compagnie des pasteurs, intervention constante dans les affaires de l'Europe protestante, tout particulièrement celle du royaume de France, ravagé par les guerres de religion, immense correspondance, polémique théologique dans de nombreuses directions, tout particulièrement face aux attaques répétées et toujours plus agressives des luthériens ubiquitaires contre la doctrine réformée de la Sainte-Seine, rédaction d'ouvrages d'histoire, travail constant pour perfectionner son édition grecque du Nouveau Testament et la traduction française de la fameuse Bible de Genève, et enfin de nombreux voyages au but politique et ecclésiastique en France, en Allemagne et dans les cantons suisses. En 1571, Baez préside le synode national des églises réformées de France à La Rochelle, confession de La Rochelle. Puis l'année suivante, le voit à Nîmes, toujours au synode national, tant les difficultés provoquées par des troublions tels Jean Morelli et Pierre de la Ramée exigent sa présence. Puis fin août 1572, voit l'horreur, le désastre de la Saint-Barthélemy. Partout face à l'offensive violente de la contre-réforme, les protestants se trouvent sur la défensive. En 1574, Baez publie son fameux « Du droit des magistrats », qui répond en partie aux théories du pape Pie V, justifiant le tyrannicide lorsqu'il est dirigé contre des monarques protestants. Ce livre est un véritable traité de politique du point de vue réformé. Baez, entre bien d'autres choses, y enseigne que si la résistance individuelle armée du chrétien au pouvoir même tyrannique est interdite, par contre, il est licite aux magistrats inférieurs de s'opposer, si nécessaire, par les armes, aux tyrans qui cherchent à détruire l'Église. 1575 voit la mort de Bullinger. Depuis lors, Baez assume seul la charge si lourde de la direction spirituelle et politique des Églises de la Réforme. Constamment, il cherche à rapprocher les Églises issues de la Réforme dans un souci de concorde, dans la vérité et dans le respect mutuel, afin de créer un front uni avec les églises luthériennes d'Allemagne contre l'ennemi persécuteur commun, la prostituée romaine. Mais il se bute constamment au refus obstiné des luthériens, ubiquitaires, c'est-à-dire qui considèrent que le corps du Christ n'est pas au ciel mais partout, qui résistent à ces ouvertures, le voyant de plus en plus comme l'hérétique à abattre, pire encore que l'adversaire romain. C'est en 1580, après une grave maladie, que Baez renonce à être réélu chaque année comme modérateur de la Compagnie des pasteurs de Genève, de l'Église de Genève. C'est cette même année que Baez fit paraître sa remarquable histoire ecclésiastique des Églises réformées de France. 1586 est marqué par un débat difficile avec les luthériens ubiquitaires à Montbéliard, débat qui porte d'abord sur les questions de la Sainte Cène et de la personne du Christ. Baez s'y montre un théologien d'envergure patristique, de premier ordre, et même par certains côtés scolastique, tant son argumentation est précise et percutante. Mais il se bute comme toujours à la résistance farouche des luthériens qui veulent à tout prix ceci en opposition aux formulations précises d'Éphèse et de Chalcédoine, avoir le corps du Christ partout. Quelques mots sur la prédication de Baez. De 1586 à 1593, Genève subit le siège presque constant des comtes de Savoie, qui veulent absolument en finir avec cette ville rebelle et hérétique. La situation dans la ville devient si précaire que les autorités envisagent de fermer temporairement l'académie. Baez s'y oppose de toutes ses forces, considérant ça comme un acte où on baisse son drapeau, obtenant gain de cause, mais au prix de se charger à lui seul, à près de 70 ans, de tout l'enseignement académique. Il rassemble tous ses traités théologiques en trois gros volumes, œuvre magistrale qui n'a jamais été dans son ensemble ni rééditée, ni traduite en français ou en une quelconque autre langue. C'est à cette époque que Baez publie des ouvrages bibliques, des cours sur le livre de Job et des prédications remarquables sur le Cantique des Cantiques et surtout sur la crucifixion et sur la résurrection du Christ. C'est là que l'on voit le mieux la plénitude de la théologie biblique de Baez, à la fois pastorale et dogmatique, polémique et apologétique, toujours soucieuse du bien des âmes et des églises. Il est pour moi incompréhensible que de tels textes qui contiennent un enseignement homilétique qui peut aisément se comparer à celui des plus grands prédicateurs de l'histoire de l'Église n'aient jamais été réédités. Baez y mettait un accent tout particulier sur la nécessité d'une piété personnelle. Pour lui, le fait de ne plus soupirer après Dieu et de ressentir de l'amour pour l'époux divin représentait la menace la plus grave pour la foi. Il s'agissait en fait de l'idolâtrie la plus dangereuse pour la vie des églises réformées, je le cite. Pour terminer cette modeste étude sur Théodore de Bèze, pasteur et défenseur de la foi, nous examinerons brièvement une question. Il y en aurait plusieurs à examiner, que j'ai passé rapidement, mais il y en aurait plusieurs. Par exemple, l'hérésie du rationalisme philosophique de Pierre de la Ramée, auquel il s'opposa avec une force et une perspicacité incroyables. Ou bien Bèze, penseur politique. Ou bien une étude sur l'hérésie anticalcédonienne des ubiquitaires luthériens. Mais nous n'examinerons pas tout ça. Nous parlerons pour finir de la nature précise d'une foi véritable. La nature précise d'une foi véritable. Un des grands débats théologiques et philosophiques du XVIe siècle concernait la nature de la foi. Voici quelques questions que se posaient constamment les théologiens. Quel est l'aspect objectif de la foi et quel en est l'aspect subjectif? Deuxièmement, quel est le rapport entre la connaissance des vérités révélées et la confiance que nous devons avoir en Dieu? Troisièmement, quel est le rôle de la volonté et quel est celui de l'intellect dans la foi? Quatrièmement, certains historiens ont prétendu que si Calvin mettait l'accent sur la volonté dans l'acte de foi, par contre, Bèze accentuait le rôle de l'intellect. Qu'en est-il vraiment? Pour répondre à ces questions, nous suivrons de près l'étude qu'en fait Jeffrey Mallinson dans le dernier chapitre de son livre « La foi, la raison et la révélation » chez Théodore de Bèze. Chapitre intitulé « La doctrine de la foi » chez Bèze. Remarquons tout d'abord que Mallinson se distance d'emblée de deux interprétations récentes du rôle de la foi dans la pensée de Théodore de Bèze. Pour Philip Holtrop, Bèze aurait, je cite, intellectualisé tant la foi que la vérité. Fin de citation. Ceci en opposition à Calvin qui lui aurait mis l'accent sur la volonté. Citation. Selon Holtrop, le premier serait, je cite, un théologien de la tête, et le second, je cite encore, un théologien du cœur. Par contre, R.T. Kendall prétend que Bèze aurait déformé la tradition calviniste en passant de l'intellectualisme de Calvin à un volontarisme de type scotiste. Alors, demande Mallinson, à quoi faut-il s'en tenir? Bèze serait-il un intellectualiste ou un volontariste? Pour Mallinson, la position tend de l'un que de l'autre doit être rejeté, à cause de l'imprécision avec laquelle tous les deux cherchent à définir le débat doctrinal et philosophique auquel se confrontaient tant Calvin que Bèze. En fait, nous nous trouvons ici en pleine logique binaire ramienne. Ça, c'est une partie que nous n'avons pas traitée. Celle du « ou bien ». C'est une logique qui dit « ou bien ». Alors, on est d'accord, ou bien le bien, ou bien le mal, ou bien la vérité, ou bien le mensonge. Mais on ne va pas dire « ou bien l'homme, ou bien la femme ». On ne va pas dire « ou bien la grâce, ou bien la loi ». On ne va pas dire « ou bien l'humanité, ou bien la divinité du Christ ». C'est toujours des logiques qui concertent, qui raccordent les réalités d'une manière cohérente et respectueuse de leur propre identité. Ou bien c'est l'intellect ici, ou bien c'est la volonté, dans la perspective ramienne. Mais dans cette perspective binaire, il y a seulement deux points, ces éléments ne sont jamais pris ensemble, chacun à la place qui lui est propre, comme si ces deux attributs indispensables à la nature humaine pouvaient en fait exister l'un sans l'autre. Mallinson démontre que la question au XVIe siècle se posait tout autrement. Citons d'abord ce qu'il dit sur la position d'Holtrop. Holtrop, dit-il, prétend que la théologie de Bèze est plus intellectuelle que la théologie plutôt existentielle de Calvin. Mais cette intellectualisation se rapporte clairement à la systématisation de la théologie et à une conception propositionnelle de la vérité, plutôt qu'à la priorité de la volonté sur l'intellect dans la causalité intérieure à l'homme. Holtrop s'empare de l'idée que Bèze serait un intellectualiste uniquement pour appuyer sa thèse générale selon laquelle Bèze se préoccuperait trop du caractère théorique et académique de la théologie. Cependant, l'accent mis sur les aspects intellectuels de la théologie n'implique pas plus une intellectualisation épistémologique qu'une vision anti-intellectualiste de la théologie est nécessairement liée à un volontarisme épistémologique. Il s'agit bien évidemment chez Olthrop d'une confusion de deux problèmes bien distincts. Voyons maintenant comment Mandelson analyse la position apparemment contraire de Kendall. Kendall comprend de manière erronée la nature de la pensée des théologiens du XVIe siècle en ce qui concerne le fonctionnement psychologique des facultés humaines, qui sont nos facultés, lorsqu'il associe l'intellectualisation au monergisme sotériologique, c'est-à-dire une seule cause divine agissant dans le salut, et le volontarisme au synergisme sotériologique, c'est-à-dire l'acte volontaire de l'homme viendrait à la rencontre de la grâce salvatrice de Dieu. Ici, la confusion provient de l'utilisation du mot « volonté ». Les protestants ne devraient-ils pas rejeter l'activité de la volonté et plutôt s'attacher à la doctrine du salut comme un pur acte divin? La naïveté d'une telle supposition, dit Mallinson, devient flagrante lorsque nous considérons le monergisme et le volontarisme simultané de théologiens allant d'Augustin à de nombreux autres réformés modernes. Tant Calvin que Bèze affirment que la volonté joue un rôle significatif dans la formation de la foi. Débarrassons-nous d'emblée de l'idée que cette position augustinienne réformée soit incompatible avec la doctrine de la sola gratia. Une dépendance extrême envers l'intellect peut tout aussi bien conduire au pélagianisme qu'une dépendance aussi absolue envers la volonté. Nous pouvons cependant être sûrs d'une chose, qu'indifféremment à son prétendu intellectualisme ou à son volontarisme, il est absolument clair que pour Bèze, le Saint-Esprit doit œuvrer pour renouveler toutes les facultés de l'âme. Fin de citation de Mallinson. Pour prouver son affirmation, Mallinson cite immédiatement deux textes magnifiques de Bèze. Je cite Bèze. Le Saint-Esprit applique ici un double remède. Premièrement, le Saint-Esprit dispose notre intellect. Le Saint-Esprit dispose notre intellect afin de percevoir la doctrine de l'Évangile qui autrement n'est que folie pour le monde. Puis il persuade nos âmes non seulement que la doctrine gracieuse du salut en Jésus-Christ est vraie, mais qu'elle est nôtre personnellement. Car même les démons comprennent qu'elle est vraie, mais n'en sont pas moins perdus, dit Bèze. Ce texte souligne le caractère à la fois intellectuel et existentiel du salut. Puis sur ce renouvellement de l'intellect et de la volonté qu'opère en nous le Saint-Esprit, Bèze écrit, je le cite encore, « Car Dieu envoie dans le cœur des croyants la puissance du Saint-Esprit qui illumine notre intelligence et qui change graduellement petit à petit toutes les facettes de notre volonté et de nos sentiments et ainsi notre corruption innée est tellement corrigé que nous commençons à haïr le mal et à aimer suivre le bien tel qu'il a été prescrit par la loi. » De ce point de vue, il y a une très grande ressemblance entre les conceptions de Bèze et celles de Calvin. Pour Bèze, les facultés de l'âme ne sont pas abolies par la chute, et l'intellect et la volonté persistent en l'homme malgré le péché. Pour lui, les hommes pécheurs qu'ils sont ne sont aucunement des bûches. Pour lui, l'homme déchu possède toujours une liberté de choix, c'est-à-dire une volonté spontanée. Seul le choix du vrai bien lui est impossible. Le problème se trouve dans l'usage que l'homme fait de ses facultés. L'impossibilité pour lui de connaître la vérité de Dieu et son incapacité de vouloir le bien véritable. La chute renverse aussi la hiérarchie juste des facultés. L'intellect devrait gouverner la volonté, ce qui n'est plus le cas pour l'homme déchu, car dans cet état, c'est la volonté, les passions, qui de fait gouvernent l'intellect. Et Mallinson le dit fort bien. Chaque faculté, selon Bèze, est chez le chrétien en partie régénérée, en partie non régénérée. Par exemple, si nous ne connaissons qu'en partie, dit Bèze, l'intelligence n'est en conséquence pas à présent parfaite. Ceci est vrai également de la volonté, et il cite encore Bèze, la volonté commence à désirer et désire obéir, ceci de manière partielle, puis elle se rebelle à nouveau, de sorte que le même homme tout à la fois veut et ne veut pas, il comprend et ne comprend pas, les facultés inférieures de l'homme sont à considérer de manière semblable. Et Bèze ajoute, lorsque nous disons que nous sommes régénérés, et que l'esprit lutte avec la chair, nous ne supposons pas que la partie supérieure, l'intellect, est régénérée, tandis que la partie inférieure, la volonté, ne l'est pas. C'est là une notion diabolique, dit-il. Pour Bèze, la foi se situe dans le cœur, mais aussi dans l'intelligence, dans l'âme, dans la volonté. Alors, comment Bèze envisage-t-il l'acte de foi du chrétien? Suivant la tradition réformée de son temps, Bèze distingue trois aspects à la foi. 1. Nous croyons quelque chose sur Dieu. 2. Nous croyons Dieu. Enfin, nous croyons en Dieu. Chacun de ces trois points est nécessaire à toute vraie foi. Car pour Bèze, la foi n'est pas seulement le fait de croire que le christianisme est vrai, mais aussi de croire que les promesses de Jésus-Christ s'appliquent personnellement aux croyants. Citons encore une fois Bèze. Maintenant, la foi dont nous parlons n'est pas simplement celle par laquelle nous croyons que Dieu est Dieu et que sa parole est vraie. Même les démons ont cette foi et ils tremblent d'autant plus. Mais nous nommons foi une connaissance sûre que le Saint-Esprit imprime de plus en plus fortement sur le cœur de ses élus. Par sa seule grâce et bonté, cette connaissance fait que chaque croyant, étant rendu de plus en plus certain dans son cœur de sa propre élection, s'applique à lui-même les promesses de salut qui sont en Jésus-Christ. La foi, donc, ne croit pas seulement que Jésus a été crucifié et ressuscité pour les pécheurs, mais embrasse aussi Jésus-Christ, en qui il croit véritablement et en qui il met toute sa confiance. Il en devient certain de son salut, salut dont il ne peut plus douter. Fin de citation. Nous voyons ici la complémentarité de la connaissance et de la volonté chez le croyant, et aussi la complémentarité de l'objectivité de la foi, la vérité conceptuelle, Christ est mort pour les pécheurs, et de sa subjectivité, que nous devons nous saisir du Christ, l'embrasser, dit Bèze, de manière toute personnelle. Ainsi, la foi véritable évacue les antinomies bien artificielles des disciples modernes, de la logique binaire par trop simpliste de Pierre de la Ramée. Pour Bèze, la triple approche de la foi que nous venons d'évoquer était très éclairante. 1. Connaître les faits. 2. Approuver ou acquiescer la vérité de ces faits. 3. Se les appliquer de manière particulière, toute personnelle, y mettre sa confiance. Sur le plan de la connaissance, cette distinction tripartite se formule ainsi. 1. Une simple connaissance. 2. Une compréhension relative au sujet. 3. Une pleine certitude de connaissance. Pour lui, si les non-régénérés peuvent connaître l'Écriture selon les deux premiers aspects, ils ne peuvent par contre aucunement atteindre la pleine certitude de la foi, car elle n'est disponible qu'à ceux dont l'intelligence est illuminée par le Saint-Esprit. Une telle distinction tripartite permettait de rendre compte des arguments évidentiels en faveur de la véracité historique de l'Écriture, car, comme le dit fort bien Mallinson, il reflète l'importance des éléments objectifs de la foi et de la connaissance, sans pour autant exclure la nécessité d'une réponse subjective. Mallinson explicite ensuite de manière détaillée comment Bèze considère ces trois éléments. Premièrement, le premier élément de la foi, une simple connaissance. Pour Bèze, la connaissance de Dieu est essentielle à la foi et à la paix chrétienne. C'est en effet uniquement par une connaissance saine, dit-il, que l'homme peut adorer, servir et implorer Dieu. Pour lui, c'est un axiome qui va de soi qu'avant d'aimer Dieu, il faut le connaître. Ainsi, selon Bèze, la volonté ne peut pas fonctionner droitement à moins que l'intellect lui fournisse un objet. Pour avoir la vraie foi, le chrétien, même le plus simple, doit comprendre ce qu'il croit et pourquoi il le croit. Il rejette totalement la doctrine catholique romaine d'une foi qui serait implicite, non explicitée, incomprise par le croyant, une sorte de foi de chaudronnier. Certes, pour Bèze, le simple croyant n'a pas besoin de comprendre toutes les finesses académiques de la théologie, mais il lui faut néanmoins saisir intellectuellement l'essence du christianisme. Pour Bèze, il est tout à fait impossible de croire quelque chose qui n'est simplement pas connu. Car, écrit-il, le royaume de Dieu n'est point un royaume d'ignorance, mais de foi et par conséquent de connaissance, vu que nul ne peut croire ce qu'il ne sait. Pour lui, la foi présuppose une droite connaissance de ce qu'il doit croire. Deuxièmement, le deuxième élément de la foi, l'accord ou l'assentiment. Cet accord ou assentiment à l'égard de ce que l'on connaît de Dieu constitue pour Bèze l'approbation de l'intelligence après une enquête plus approfondie, mais, écrit Mallinson, considéré comme acte de l'intellect cependant, cet assentiment de l'intelligence ne suffit pas pour susciter la vraie foi. Quoique des intellectualistes tels Jacob Arminius seraient satisfaits de définir la foi comme connaissance et assentiment, Bèze, lui, ne l'est aucunement. Le niveau propre de cet assentiment de l'intelligence est celui de la démonstration évidentielle. Mallinson ajoute, l'insuffisance de cette argumentation évidentielle n'implique pas qu'elle devrait être rejetée. Bien qu'il utilise souvent un langage qui semble impliquer le renoncement à cet assentiment en faveur de la confiance, Bèze ne veut par là qu'indiquer l'insuffisance de cette approbation de l'intelligence pour établir une foi véritable. Et il le cite. « Nous ne devons pas seulement croire, écrit-il, que la promesse est vraie, mais aussi nous l'appliquer de manière personnelle. » Une telle foi-assentiment n'est pas la foi véritable. C'est celle que peut animer les apostats, ceux qui renoncent à ce qu'ils ont connu de Dieu. Les apostats n'ont ainsi jamais connu la foi authentique, plénière et salvatrice de Dieu. Troisième point, le troisième élément de la foi, l'application particulière à soi-même des promesses du Christ. Ce troisième élément, sans lequel il ne peut y avoir de vraie foi, est celui qui permet aux croyants de s'appliquer à lui-même les promesses de la rédemption en Christ. Il est parfois appelé par Bèze une persuasion pleine et entière. Suivons à nouveau les explications de Mallinson. Bèze explique que tous ceux qui croient que Dieu existe n'ont pas la vraie foi. Cependant, par instinct naturel, l'homme est capable de se persuader qu'un Dieu existe. Mais ceci n'est pas la ferme persuasion de la foi, à moins d'être accompagné par la parole du Seigneur. Mais un tel assentiment aux paroles de l'Écriture n'est pas la persuasion très ferme, puisqu'elle est propre aux démons eux-mêmes. Plutôt, la très ferme persuasion qui seule est salutaire est celle qui se repose sur les promesses du Christ. Nul, écrit Bèze, ne se convaincra lui-même de son propre salut à moins de se réfugier dans le médiateur. Cette pleine persuasion dans la promesse du Christ est la pierre de voûte de la foi. Ce troisième aspect de la foi introduit la volonté, volonté qui d'abord hostile à Dieu, et retourné vers son Sauveur par l'action du Saint-Esprit. Pour Bèze, fidem, la foi, est à distinguer de fiducia, la confiance, comme une cause se distingue de son effet. La cause, le don de la foi par Dieu, produit dans le chrétien cette pleine confiance en Dieu qui le met au bénéfice de toutes les promesses de la rédemption. Cette distinction entre foi et confiance montre bien que pour Bèze, la vraie foi ne peut consister en une simple connaissance intellectuelle de Dieu, mais qu'elle doit être accompagnée du consentement ferme du croyant par lequel il se saisit du Christ que le Père lui présente. Ainsi, pour Bèze, il existe différents degrés de croyance en Dieu qui vont de la déduction logique de l'existence de Dieu en examinant l'ordre de la nature, Romains 1, et un raisonnement encore plus certain à partir des évidences contenues dans les Écritures qui convainquent le lecteur de la Bible de sa véracité et de son inspiration divine pour parvenir enfin à cette pleine conviction que donne le Saint-Esprit lorsque le croyant se confie entièrement par la seule œuvre de la grâce dans son cœur dans les bienfaits qui se trouvent pour lui dans les promesses contenues dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Conclusion. Le dimanche 13 octobre 1605, dans sa 87e année, à 8h du matin, au son de la cloche qui appelait les fidèles au culte, après avoir rendu grâce à Dieu et s'être restauré d'un peu de pain et de vin, Théodore de Bèze, se sentant soudain là, se recoucha. Et tout doucement, sans aucune douleur et sans aucun hoquet, comme le dernier coup de la cloche résonne, il rend son âme à Dieu. Le lendemain, le recteur de l'académie affichait la convocation suivante sur les portes des auditoires. Telle est l'arrivée au port pour les navigateurs. Telle l'entrée dans une autre vie pour ceux dont la mort est précieuse aux yeux du Seigneur. La journée d'hier a vu s'éteindre une grande lumière de l'Église. Chargé d'années, noble et spectable, Théodore de Bèze vient de s'acquitter de cette vie éphémère et misérable pour entrer paisiblement dans celle où l'on trouve le repos et la félicité éternelle. Aujourd'hui auront lieu ses obsèques. C'est pourquoi, illustre et généreux seigneur, comte, baron, noble et étudiant de toutes conditions, appartenant à cette académie, au nom des pasteurs et des professeurs, nous vous convoquons pour l'heure de midi, afin de prendre part au convoi funèbre et de rendre l'honneur suprême dû à cet homme éminent, à cette mort sainte. Son corps a été semé corruptible, ainsi que celui de tous ceux qui meurent en Christ. Il ressuscitera incorruptible. Car ni la mort ni la vie ne nous peuvent priver des bienfaits de cet amour que Dieu témoigne à ceux qui sont à lui en notre Seigneur Jésus-Christ, lequel fait passer les siens de la mort à la vie. Le décès a eu lieu le 13e jour d'octobre 1605. Fin de citation. Une des dernières œuvres et des plus méconnues et le recueil de ses prières familières, ouvrage qui n'existe aujourd'hui que dans une traduction anglaise. Notre conclusion viendra de sa 28e et dernière prière. Elle est intitulée « Pour celui qui sent l'approche de la mort ». Car nous savons que si notre habitation terrestre de cette tente est détruite, nous avons un édifice qui vient de Dieu, savoir une maison éternelle dans les cieux, qui n'est point faite de main. Le corps est semé en corruption, il ressuscitera incorruptible. Ô Seigneur, mon Dieu et Père, très justement, l'homme, ta créature, fut précipité dans la malédiction d'une mort éternelle, lorsque par le péché il se détourna de toi, qui es la vie. Car ta majesté, ayant reçu une offense infinie, devait justement exiger un châtiment sans fin, qui, commençant dans cette vie même par de nombreuses misères, est perpétué en enfer, dont la porte est la mort. Ô Seigneur, la cause d'aussi lamentable malheur est notre nature. Mais en toi se trouvent pitié et compassion, ô Père miséricordieux, qui, selon ta bonté inexprimable, fait que cette mort temporelle, qu'aucun homme ne peut éviter, et qui pour les réprouver est l'entrée de l'enfer, change de nature pour les élus, devenant pour eux un passage joyeux vers ce bonheur qui est au ciel. Car Jésus-Christ, ton Fils éternel, a pour nous acquérir ce bienfait, revêtu notre chair, et a par ce moyen guéri la blessure du péché par sa justice. Par son offrande, il a satisfait notre dette, triomphant par sa résurrection, par sa résurrection de la mort, de Satan et de l'enfer, pour le salut de ceux auxquels tu donnes de croire en son nom. Maintenant, mon Dieu, puisqu'il t'a plu dans ton grand amour d'accomplir ainsi le haut mystère de notre rédemption, je te supplie, accorde-moi d'en ressentir le fruit et l'efficacité par la puissance de ton esprit. Mène jusqu'au dernier souffle de ma vie que je puisse te rendre mon âme en paix. Car je suis baptisé dans le nom du Christ, je crois à son saint évangile et suis nourri de son corps et de son sang dans sa sainte Église. Il est vrai, ô Seigneur, que le souvenir de mes péchés, dont ma conscience m'accuse, me trouble grandement, car l'obscurcissement de mon esprit m'a empêché de te connaître droitement et la corruption de mon cœur de t'adorer en esprit et en vérité selon ta parole. J'ai ainsi négligé ce précieux trésor, la croix même de mon Rédempteur, et ma mollesse en a rendu la semence infructueuse pour mon âme, préférant bien souvent l'amour de moi-même et des vanités de ce monde à l'amour que je te dois, mon Créateur, et à mon prochain par amour pour toi. Je ne me suis pas attaché à la croix de ton Fils de manière à joyeusement porter la mienne après lui. En renonçant à toutes mes convoitises, je n'ai pas non plus appliqué tes châtiments à l'intègre amendement de ma vie. J'ai été faible dans la foi, lent dans l'espérance, froid en charité, impatient dans la tribulation, et plus raide à retenir les offenses des hommes à mon égard que prompt à les pardonner. Que puis-je dire encore, mon Dieu ? Car bien d'autres péchés que je ne saurais exprimer, m'étant jusqu'à ce jour encore cachés par mes infirmités, submergent mon âme. Si ce n'était pour la repentance que tu m'accordes et la confiance que j'ai en ta miséricorde par la justice de mon Sauveur Jésus-Christ, que dans sa bonté paternelle il te plaît de faire mienne, je ne vois que source de désespoir. Son sacrifice me donne paix avec toi. Son sang me purifie. Son obéissance m'absout. Dans ses tourments, mon âme trouve son repos. À cause de tous ses bienfaits, je ressens la promesse scellée dans mon cœur par ton esprit qui me fait écrier « Abba, Père » et m'assure qu'étant éclairé de toi, tu accorderas par ta libre miséricorde au nom de ton Fils et par amour pour lui la rémission de mes péchés et la vie éternelle. Ainsi, par cette lumière céleste, je contemple avec les yeux de mon esprit le navire qui me transportera de la terre au ciel. Me trouvant pas plus éloigné de la présence de mon Rédempteur que ne l'étaient ses disciples lorsque, ramant contre la tempête, il leur dit « Ne craignez point, c'est moi ». Car de manière toute semblable, il vient à ma rencontre pour me dire « Ne crains point, rassure-toi, sois ferme, c'est moi, et non pas cette mort que tu redoutes peut-être, mais dont j'ai brisé l'aiguillon, que j'ai conduit en triomphe, dont j'ai rompu les barreaux et les liens jusqu'en enfer même, et qu'en conséquence, je te fais monter de la tombe au palais de ma gloire. Ainsi, mon Dieu, fortifie par ta grâce et par l'espérance chrétienne qui ne sera point confondue, couvert par le bouclier de la foi, que ne peut blesser les traits du diable, je peux d'un mouvement vigoureux passer en paix de cette prison de nature avec ces dernières paroles. Ô Seigneur, entre tes mains je remets mon esprit. Et ce même Christ me disant comme au pauvre larron mourant, « Mon fils, réjouis-toi, car ce jour même, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen.